culturel.
He wanted to do something that, you know, hadn't been done by Prost, hadn't been done by Senna, hadn't been done by any of the drivers in recent history.
So I kind of love it, yeah.
I got such a strong impression of how hard Michael was willing to work. And that transformed the team.
And what Schumacher achieved was absolutely incredible.
Wow. Je me demande si je veux vraiment le voir.
Je pense que oui.
Honnêtement, ces affaires-là, ça me touche tellement parce que... C'est un grand du monde du sport. Mm-hmm. On a une image, puis j'essaie de garder l'image de tout ce qu'il a fait, de son œuvre
avec
Ferrari.
Mais ça changera pas. Ouais. Ça changera pas parce qu'il y a vraiment juste une petite portion sur l'accident et sur un peu plus de détails sur ce qu'il est aujourd'hui. Mais avant de vous parler de ça, là, pour ceux qui n'ont pas compris encore, moi, j'adore les documentaires sportifs. Vous connaissez aussi mon amour pour la F1. Alors, j'étais la personne...
Amour nouveau.
Oui, amour nouveau depuis un an environ.
Tu sais, quand on rencontre une nouvelle flamme, là, ça pétille pendant un bout de temps.
Je suis encore dans cette période-là avec la F1. Sincèrement, le nouveau documentaire Schumacher sur la vie et la carrière de Michael Schumacher qui est disponible depuis hier sur Netflix, c'est très bon. Bien sûr, on parle de sa carrière, ses débuts percutants en F1, son arrivée difficile avec Ferrari, mais qu'est-ce qu'il en a fait? On y voit aussi la rivalité avec Jacques Villeneuve, celle avec Ayrton Senna qui voulait tellement pas se faire dépasser par Schumacher qu'il en est décédé en 1994. Moi, personnellement, j'en ai appris beaucoup parce que je connaissais pas vraiment... Oui, je connais l'athlète qu'il était, mais pas en détail. Et on en apprend aussi sur l'homme derrière l'athlète, un homme solitaire, extrêmement travaillant et très, très dur envers lui-même. Mais ce qu'on voulait surtout savoir, c'était, il est où aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe avec lui depuis son accident de ski en 2013? Sa femme Corinna et ses enfants font partie du documentaire, mais on n'en parle pas énormément. Il y a juste une petite portion à la fin où on s'ouvre. Entre autres, Mick, son fils, qui conduit maintenant lui-même en F1, est très discret sur l'état de son père habituellement, mais dans le documentaire, il s'ouvre un peu plus et c'est touchant, là. Je vous le dis, il explique à quel point leur vie est différente depuis l'accident et qu'il donnerait tout pour pouvoir parler avec son père de ce qu'il vit aujourd'hui. Quand sa femme parle de lui au passé, là, pendant qu'il est encore en vie, on peut comprendre quand même dans quel état il se trouve. Elle dit « Michael manque à tout le monde », mais Michael est là, il est différent. Mais il est là. Elle ajoute qu'il a toujours été discret sur sa vie personnelle et sa vie personnelle reste à l'abri des gens aujourd'hui à cause de ça, parce que c'est ce que lui aurait voulu.
Oui, encore plus aujourd'hui. Il était déjà très discret quand il était au sommet.
Ouais.
Imaginez-vous aujourd'hui comment, si on veut respecter le type d'individu qu'il était, comment on doit protéger cet environnement familial-là.
Non, exactement. Elle dit qu'il vit à la maison, qu'il y a des séances thérapeutiques et tout ça avec lui, mais bon, on comprend que probablement que, ben, il parle pas, ça on le sait, mais que la tête n'y est plus. Extrêmement touchant, mais on se remémore vraiment les bons moments de sa carrière. Il y a des images inédites, des vidéos, des entrevues pour les gens qui aiment la F1, même pour les gens qui aiment moins peut-être la F1.
Ah non, vous allez découvrir
ces documentaires sportifs-là, c'est toujours très, très intéressant d'en apprendre davantage. Alors, c'est disponible depuis hier sur Netflix. Ça s'appelle tout simplement Schumacher.
D'ailleurs, les documentaristes, là, ils savent très bien, quand ils s'attaquent au sport, ils ne veulent pas juste parler aux gens qui ont déjà suivi un athlète ou un club ou une situation. Ils veulent élargir l'auditoire, le public qui va avoir accès à la situation. Donc, vous n'avez pas besoin d'être un expert en Formule 1 pour suivre un documentaire sur Michael Schumacher. Vous n'avez pas besoin d'être un expert en basketball pour suivre un documentaire sur Michael Jordan.
Mm-hmm.
Vraiment pas, tu sais. Parce qu'on va vous... Puis d'ailleurs, le plus bel exemple, c'est le documentaire F1.
Formula One,
que j'ai regardé avec ma blonde.
Ouais.
Ma blonde, elle, à part la couleur des voitures, là, c'était rien. Et puis, honnêtement, elle a embarqué, elle connaît les personnages, puis elle a, découvert un intérêt pour ça. Pas qu'elle se lève le dimanche matin pour écouter Pierre Houde, là. Toi, oui.
Mais c'est ça qui est fascinant, parce que moi, Mike, avant, Je trouvais ça, puis j'utilise même le mot insignifiant, les oui. sports de course. Oui. Je me disais, qui peut aimer regarder des chars faire des tours de piste
mais
pendant trois heures?
Mais quand on voit tout
heures,
ce qu'il y a en arrière des chars...
Puis depuis que j'ai regardé cette série-là, ben je me lève à tous les dimanches de course de F1, ou presque. Alors, faut comprendre que souvent, ça donne... Ben on apprend beaucoup, puis on apprend à connaître les gens derrière, et c'est ça qui fait qu'on embarque plus là-dedans. Là.
Et ça, le sport, c'est accrocheur.
Mm-hmm.
Dans tous les sports, les documentaires sur le baseball, l'équipe universitaire au football qui a gagné une année, mais qui a perdu, puis qui a vécu sur l'émotion, puis on raconte cette histoire-là. On vous raconte une histoire, puis au bout du compte, il y a une gloire. Ou il y a une déception, c'est selon... Mais il y a beaucoup d'émotions dans tout ce qui est sportif.
Exactement. Puis quand tu es en coulisses, quand on filme des images, entre autres avec le documentaire sur Michael Jordan, c'était ça. Formula One aussi, c'est ça. On est en coulisses. On voit vraiment tout ce qui se passe, l'envers du décor. Puis on se rend compte que c'est beaucoup plus que ce qu'on voit, le match
tellement,
ou la course. T'sais.
Tellement, tellement. Alors, allez-y, allez voir ça. C'est sûr que moi, quand on voit des gens en fauteuil roulant, ou encore des gens qui ont un handicap, ça me... Mm-hmm.
Mais on
ça,
voit rien là, dans Schumacher, je vous avertis.
Good, merci beaucoup. OK, un remake pour le film Bodyguard. And I will
always love you. Pourquoi pas se mettre dans l'ambiance ce matin? Hier, le prestigieux... Ben, en fait, le magazine Variety a annoncé qu'on allait faire un remake de ce fameux film de 1992. Film avec Whitney Houston, bien entendu. Et ce sera une nouvelle version avec une nouvelle mouture d'acteurs. Vous le comprendrez, on ignore encore qui seront les acteurs. Mais il y a déjà des noms qui circulent, entre autres Chris Hemsworth, Channing Tatum et Cardi B. Ça circule déjà là à Hollywood. Le film qui est sorti en 92 a connu un énorme succès au box-office. On parle de 411 millions de dollars d'amassés. Et bien sûr, la trame sonore de ce film-là, avec entre autres « I Will Always Love You », est l'une des meilleures de tous les temps. C'est encore considéré comme une des meilleures trames sonores qui est sortie de film. L'album s'est vendu à plus de 12 millions d'exemplaires. Pas de détails concernant la sortie. On est encore très tôt dans le processus, mais il y aura un remake, une nouvelle version du film Bodyguard. Et rappelons que Whitney Houston fera également l'objet d'un biopic intitulé I Wanna Dance With Somebody, film qui devrait sortir à quelque part en 2022.
Excellent travail, Tania, comme toujours.
Merci beaucoup.
Bouge pas, je te convie à la chaloupe dans quelques instants avec LP.